Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio. Et c'est l'heure de Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil. Bonjour Stéphane, comment ça va aujourd'hui ?
Ça va bien Julie, en cette période de quarantaine, on n'est pas du tout séparés les uns des autres, on est ensemble et on va faire une chouette émission.
Tout à fait, on n'est pas encore séparés, alors on en profite.
Donc bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Art District et de Bulle d'Histoire. Aujourd'hui, on ne parle pas de bande dessinée historique. J'ai en face de moi Alix de Sanderval, qui est éditrice de bande dessinée. Donc on continue un peu notre exploration du monde de la bande dessinée, de tous les métiers, de tous les gens qui permettent aux auteurs de faire des bandes dessinées. Alix, question rituelle de Bulle d'Histoire, qui êtes-vous ?
Bonjour à tous les deux déjà, et bonjour à tous. Effectivement, éditrice bande dessinée chez Delcourt depuis presque 2 ans, pas tout à fait. Voilà, pour résumer, très simplement.
Donc c'est un petit résumé, on va développer un peu plus tous les deux. Avant d'éditer de la bande dessinée, vous éditiez de la littérature, j'allais dire des livres normaux.
Du livre noir, oui.
du pavé, du pavé de gris. Comment on passe de l'un à l'autre et surtout pourquoi ?
On passe de l'un à l'autre un peu par les hasards de la vie, les chouettes hasards. Moi, j'ai toujours lu de la bande dessinée depuis que je suis toute petite. Il y en avait plein chez mon grand-père et mon père en lisait aussi beaucoup. Donc c'est voilà, des livres que j'ai toujours lus et puis ensuite voilà, j'ai su très tard ce que je voulais faire et puis j'ai su que je voulais être éditrice et puis classiquement je suis arrivée dans des maisons d'édition assez classiques. J'ai fait du scolaire, j'ai fait du livre illustré et du livre de sciences humaines. Et j'ai appris plein de choses. Et puis un jour, un client avec qui je travaillais a voulu faire une bande dessinée et j'ai été mise sur le projet et tout est revenu. Et cette bande dessinée, c'est jamais faite, mais ça m'a un peu remis le pied dedans. J'ai rencontré pas mal de gens très chouettes à ce moment-là. Et j'ai fait un peu de chronique bande dessinée, du coup, aussi à ce moment-là. Et puis voilà, j'ai rencontré Guy Delcourt, j'ai rencontré des auteurs, des éditeurs. Mais voilà, simplement comme ça, parce que c'était des rencontres chouettes. Et voilà, un jour, Guy Delcourt m'a tendu une perche et j'ai réagi et je suis passée à la bande dessinée. Je ne me rêvais pas éditrice bande dessinée, en fait, juste éditrice, c'était déjà pas mal. Mais finalement, j'ai sauté le pas avec joie. J'ai toujours travaillé en fait, avec l'image, finalement, donc ce n'est pas par hasard.
Vous avez fait des études pour être éditrice ou pas ?
Oui, j'ai fait des études.
Alors, est-ce que, une question auquel je n'avais pas pensé, est-ce que dans le cursus des jeunes gens qui font des études d'édition, on pourrait dire ça comme ça, est-ce qu'il y a une option bande dessinée ?
Alors, je crois qu'il y en a une dans une école d'Angoulême. Moi, j'ai un parcours, j'ai pas du tout fait de master d'édition ou de cursus d'édition. J'ai fait une prépa en spécialité histoire de l'art. Et puis après, j'étais à la fac, j'ai fait de l'histoire et de l'histoire de l'art, mais je voulais pas être prof, mais je savais toujours pas ce que je voulais faire. et en fin de quatrième année à la fac, voilà, je travaillais sur la Première Guerre et j'adorais ça, mais voilà, je voulais pas être prof. Donc finalement, j'ai fait un stage et je me suis dit c'est ça et ça sera rien d'autre et voilà, et je me suis lancée comme ça. Donc moi j'ai un parcours, mais en fait dans l'édition, les gens ont des parcours très différents. Donc maintenant il y a effectivement des masters d'édition, pas spécifiquement en bande dessinée. D'ailleurs il y a l'assistant éditorial avec qui je travaille qui lui a toujours su qu'il voulait faire de la bande dessinée, mais il savait pas s'il voulait être du côté de la créa ou du côté de l'édition. Voilà, donc ça dépend des gens.
Alors, quelle est la différence dans le travail d'édition entre éditer de la bande dessinée et éditer de la science humaine, par exemple ?
Bien sûr, il y a l'image, basiquement. Moi, je sais que de par mon parcours, je garde une attention très forte au texte. Et d'ailleurs, souvent, quand je parle d'une bande dessinée, je me rends compte que je parle toujours de l'écriture du scénariste, en fait, en premier, avant de parler de l'image. Alors que l'image est très importante pour moi, mais c'est vrai que naturellement, je vais aller dans le détail du texte, et le rythme et la musique d'un texte reste très importante pour moi, et j'y fais très attention. Malgré tout, les différences, elles sont pas si énormes que ça, parce que le travail d'édition, il reste le même. On accompagne l'auteur, les auteurs, pour rendre le texte plus possible publiable, même s'il y en a où il n'y a pas un accompagnement phénoménal à faire, parce qu'ils maîtrisent déjà.
Tous les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le milieu de la bande dessinée, comment ça se crée une bande dessinée? Parce que là, on est du côté de l'éditeur. C'est vous qui avez les mains dans le moteur, j'allais dire. Comment ça marche? Qui vient avec le projet? Est-ce que c'est l'éditeur qui commande? Est-ce que c'est les auteurs qui ont des projets sous le bras?
Eh bien, ça dépend. Au départ, évidemment, il y a les projets qu'on reçoit qui sont déjà avec un scénariste, un dessinateur ou un auteur complet, donc qui sont déjà montés. Après, moi, un peu de par mon parcours, je peux travailler avec des journalistes, par exemple, ou des romanciers, et il faut que je leur trouve un dessinateur ou une dessinatrice. Je sais qu'il y a des éditeurs qui refusent de faire ce travail-là, parce qu'ils estiment qu'il faut que le duo soit déjà créé et qu'on ne peut pas composer nous-mêmes des duos. Et aussi parce que ça prend du temps de chercher des dessinateurs et des dessinatrices.
Il n'y a pas de méthode.
Il
n'y
a pas de règle, non.
Alors comment vous accompagnez des auteurs de bande dessinée? J'imagine que chaque éditeur doit avoir ses propres méthodes, parce que c'est un travail où l'humain est très important. Comment vous travaillez? Comment vous les accompagnez? Comment vous améliorez les scénarios, les dessins? Parlez-nous un peu de vos recettes, de votre petite cuisine.
Ouais, là aussi, c'est très variable. Moi, je m'adapte beaucoup aux auteurs. Il y en a qui gèrent eux-mêmes et qui, ils vont avancer, ils vont demander notre avis à un moment donné, mais parce qu'ils connaissent la musique et qu'en général, il n'y a pas forcément beaucoup de remarques à faire. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus jeunes ou qui préfèrent être très accompagnés et avoir un vrai dialogue avec leur éditeur. Et dans ce cas-là, oui, je peux m'impliquer beaucoup. En fait, ça dépend un peu de ce que chacun demande et de ce que chacun attend, veut, est capable d'entendre ou pas. Je sais que, par exemple, Geoffroy Monde, on a beaucoup d'échanges sur le scénario. On s'échange des mails de 10 km, je pense, page à page. D'autres n'ont pas du tout besoin de ça. D'autres ont besoin de discuter de vive voix et d'avoir des retours un peu généraux. Donc, ça dépend.
Donc c'est un travail.
C'est chacun son
travail d'éditeur, voilà. de psychologue,
Thomas Cadenne,
d'agent.
Par exemple, et Loïc Sécheresse avancent très bien tout seul. Voilà, ils me montrent des choses régulièrement, mais eux, ça roule et j'ai toute confiance dans leur travail. Donc.
Alors, j'ai une autre question, parce que dans les livres dont on a pu parler avant de se voir, vous allez éditer dans quelques mois une très jeune dessinatrice. Là, avec une très jeune dessinatrice ou un très jeune dessinateur. Quel est le travail le plus important pour, les mettre en confiance, les faire avancer? C'est quelqu'un qui n'a jamais édité de bande dessinée encore?
Non, ça sera sa première.
Donc c'est un grand moment.
Voilà. Et alors, elle s'est lancée sur un 256 pages pour une première, c'est beaucoup. c'est une grosse travailleuse. Moi, je lui ai beaucoup expliqué le fonctionnement déjà global de la maison, de comment on pouvait travailler ensemble. Je l'ai beaucoup, beaucoup accompagnée sur son scénario au départ. Il était déjà bon, donc voilà. On a beaucoup travaillé ensemble les dialogues. Elle m'a montré toutes les étapes, storyboard, crayonné et ensuite planche d'eff. Donc c'est, il y a eu une confiance qui s'est installée, on a beaucoup discuté. Elle gardait son avis sur certaines choses et c'est très bien et heureusement. Mais voilà, on rassure peut-être Non, mais je sais pas. Elle n'était pas forcément en plus plus inquiète que ça, mais c'est oui, être présent à toutes les étapes s'il y a besoin, s'il y a besoin.
En fait, éditer de la bande dessinée, c'est être un peu scénariste, mmh. un peu storyboarder, un peu dessinateur, un peu tout ça, sans jamais le faire.
Ouais. Non, sans jamais le faire, mais moi j'ai aucune frustration. Je suis très bien à mon poste d'éditrice derrière en accompagnement, ça me va parfaitement. Et j'aime bien justement pouvoir accompagner comme ça, chacun en fonction de ce que chacun demande. Moi, très clairement, je vais être en priorité, je sais pas. Ouais, en priorité, je dirais, sur le scénario, mais parce que voilà, je viens du texte et que c'est comme ça que naturellement je vais fonctionner.
Il y a une autre question quand on s'adresse à des éditeurs, c'est le problème de ses propres goûts, des goûts des auteurs et j'allais dire des goûts du marché, parce que malgré tout, un éditeur, ça vend des bandes dessinées. Et pour vivre, il faut qu'il en vende un certain nombre. Comment l'équilibre se fait entre tout ça?
Et chez Delcourt, on a une grande liberté. Enfin, en tout cas, Delcourt nous laisse une grande liberté de publier ce qu'on veut. On n'est pas forcément attitré à une collection, un type de bande dessinée, même si par la force des choses, il y en a qui sont plutôt jeunesse, il y en a qui sont plutôt actu, doc d'actu, d'autres plus fiction adulte. Moi, je sais que j'ai un peu le cul entre deux chaises, si vous me permettez cette expression.
Et quelles sont les deux chaises?
Ben, un dé est plus classique. En fait, j'ai été biberonnée à la BD classique. Voilà, les Dacier, Giardino, que j'adore, Astérix, Tintin, tout ça, que tout le monde connaît. Un peu après, Comès... Des, que j'aime beaucoup aussi. Et après, en grandissant, j'ai lu plus des choses beaucoup plus indées. Et j'ai découvert toutes ces choses-là et que j'aime beaucoup aussi.
Donc c'est ce qu'on appelle le roman graphique.
Oui, le roman graphique.
Pour faire court.
C'est ça. Mais voilà, souvent, c'est des ventes qui sont plus faibles. Mais chez Delcourt, effectivement, on a cette possibilité de publier. Et Guy nous reprochera jamais de... vraiment que ça ait fait un flop si ça a fait un flop. C'est la vie de l'édition et bien sûr, on est là aussi pour vendre des livres et on y croit. Mais pour l'instant, j'ai cette chance de pouvoir fonctionner au gros coup de cœur. Donc voilà. Donc évidemment, il y a des choses qu'on fait aussi parce qu'on est un peu politiquement obligé de les faire. Mais c'est comme ça, on apprend aussi beaucoup comme ça et... Et voilà, ça fonctionne bien, ça s'équilibre.
On vient de parler donc de votre travail et de la façon dont vous travaillez. Il faut quand même parler de concret et d'albums qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, que vous avez suivis, donc édités, on peut dire ça comme ça. Le premier, c'est Bolshoï Arena. C'est le deuxième tome qui est sorti au mois de janvier, au moment du festival d'Angoulême.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est ce Bolshoï Arena?
C'est une série qui avait été au départ lancée par l'ancienne éditrice Marion Amir-Gagnon et qui est scénarisée par Boulet et dessinée magnifiquement par Assein. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont se retrouver à jouer dans un univers virtuel qui s'appelle le Bolshoï. En fait, dans cet univers, elles peuvent faire absolument ce qu'elles veulent. Elles ont un avatar pareil, où chacun peut choisir à quoi il ressemble dans cet univers. Et en fait, elles vont se construire des vaisseaux. Et au bout d'un certain temps, Marge, personnage principal, va être tellement fan de ce jeu qu'elle va se retrouver coincée. Et le problème, c'est que plus elle reste coincée, plus son corps sur Terre risque de mourir.
Donc il faut pas raconter la fin, parce qu'il
faut lire la fin.
Alors là, dans ce cas-là, comment un éditeur met ses pas dans les chaussons d'une autre éditrice qui a lancé la série, parce qu'on travaille à sa façon, mais on doit suivre quand même un chemin.
Est-ce que c'est difficile? Mais avec eux, c'était ultra facile. ils bossent super bien. Ils connaissent la chanson. C'est pas des univers vers lesquels je vais forcément, mais en lisant le tome 1, j'ai adoré tout de suite. J'ai juste à lire, à dire waouh, c'est génial et c'est trop beau.
on va parler d'un deuxième album que vous avez édité dans un style totalement différent. Le titre, c'est Une aventure de mystère et boule de gomme. Donc, on n'est pas du tout dans du steampunk ou dans de l'anticipation. On est le mystère, on peut imaginer qu'il y a une enquête, qu'il y a quelque chose à découvrir. Là, c'est un univers plus jeune adulte, vieil ado. Enfin, voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, comment on passe d'un univers à l'autre comme ça?
Pareil, au coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup. Au départ, je ne connaissais pas Pierre, mais Pierre, c'est sa première bande dessinée, même s'il a déjà publié dans Casier, qui est une revue brestoise. Arnaud, j'aimais beaucoup son écriture. Voilà, j'y reviens à l'écriture. Et coup de cœur, j'adore ces deux personnages. Donc c'est le baron mystère et son majordome boule de gomme. Et je retrouve un peu les univers 19e que j'aime. Voilà, feuilletonesque, un peu gothique 19e. Voilà. Donc c'est rigolo, c'est plein de finesse.
Donc voilà. Malgré son titre, c'est pas du tout pour les enfants.
Non. Enfin,
c'est vraiment bah,
c'est un dessin plus adulte, voilà. Mais voilà, le scénariste s'est rendu compte que les deux personnages plaisaient beaucoup aux enfants et ça les intriguait et voulait absolument savoir. Donc,
pour finir, j'avais une question qui concerne des albums qui ne sont pas forcément édités par Delcourt, vous avez édité. Est-ce que dans la production, il y a un album ou un auteur que vous auriez aimé suivre ou éditer?
Oui, j'ai en fait, bah alors pour le coup, il est sorti chez Soleil. C'est la série des Ogres Dieux de Hubert et Gatignol. Voilà, moi, malheureusement, l'actualité m'y fait penser assez naturellement, la triste actualité, puisque oui, Hubert est décédé. Mais oui, ça fait. Enfin, moi, c'est des univers que. Les univers d'Hubert sont absolument fous, et pareil, c'est de l'écriture, mais c'est beau, voilà, ça marche, c'est plein de finesse. Oui, ça fait partie des albums que j'aurais adoré suivre.
Alix, je vous remercie d'avoir passé ces 20 minutes, une demi-heure avec nous, parce qu'on parle beaucoup de la crise de la bande dessinée, mais j'avais devant moi quelqu'un d'heureux, donc c'est...
Très.
C'est très agréable et voilà. Julie, ben je crois qu'on a terminé, donc je vous repasse la parole.
Oui, merci beaucoup Stéphane. Alix de Sanderval, merci à vous d'avoir participé à l'émission Bulle d'Histoire. Donc je vais rappeler que vous êtes éditrice, bien sûr. Je rappelle donc deux bandes dessinées qu'on peut savourer. Alors la première s'appelle Bolshoï Arena, c'est le tome 2, avec au dessin Hassein et... au scénario Boulet pour un prix de 23,95 €. Et c'est 164 pages, donc ça va, ça se lit quand même assez vite. Le deuxième choix, une aventure de mystère et boule de gomme avec Arnaud Le Gouéflec au scénario et Pierre Malma au dessin. 16,50 € avec 96 pages. Voilà, on a fait ce petit tour ensemble. Merci beaucoup Stéphane et merci Alix, à bientôt.
À bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.